Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Deep Talk, émission sur laquelle je discute de l'actu tennis avec des acteurs et des actrices majeurs de la discipline. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les principales plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un que je connais très bien, qui a 23 ans, qui mesure 1m91. Il est de Bondy. Son meilleur classement a été 102e mondial. Il a gagné 3 challengers. Je vais parler au présent. C'est un grand espoir du tennis français, Quentin Alice. Salut Quentin.
Salut Arnaud.
Comment vas-tu pour commencer? Je crois que tu arrives à peine... T'as pris l'avion, tu arrives à peine, donc t'es dans une chambre d'hôtel, ce que je vois.
Exactement, écoute, ça va plutôt bien. J'ai repris un peu la vie qu'on avait avant le confinement, revoyager, retourner en tournoi, se retrouver un peu dans les chambres d'hôtel. Donc ça fait malgré tout plaisir, même si ça fait un peu bizarre de reprendre cette vie-là.
Et justement, sur le confinement, pour en dire quelques mots, comment tu l'as vécu, toi, dans quelles conditions et dans quel état d'esprit?
Moi, ça a été très dur. Enfin, voilà, vraiment très dur. J'étais dans un appart à Suresnes où je vis avec ma copine. Et voilà, j'ai pas forcément passé un agréable moment, mais difficile de faire du sport, difficile de tenir un régime alimentaire. Donc, je suis ressorti pas en grande forme physique et un peu touché mentalement. Donc, ça a mis du temps à revenir, à pouvoir s'entraîner dur et ça n'a pas été hyper simple.
Tu as trouvé le temps très long?
Ouais, vraiment long.
Et j'allais dire rien à voir avec ta copine, évidemment, mais vraiment avec...
Rien à voir avec elle.
Rien à voir, non, bien sûr. Mais en revanche, tu as pu sortir un petit peu, faire tes petits footings, tu as pu essayer de faire l'exercice physique, ou même mentalement, tu n'avais pas la force, l'envie, étant donné que tu savais pas quand ça allait reprendre?
En fait, j'ai très mal commencé. Dès le début, j'ai pas fait beaucoup de sport, tout ça, en pensant qu'on n'allait pas forcément rester très longtemps. Et après, je me suis mis dans une espèce de routine un peu pourrie. Et j'ai eu du mal après à me motiver, à aller faire trop de sport. Donc, j'ai pas vraiment fait beaucoup de sport pendant ce confinement et j'en suis pas super fier.
D'accord. Ok, donc un confinement compliqué. Écoute, c'est, ouais. Je suis content de l'entendre parce que tu sais quoi, c'est assez rare. À chaque fois que j'ai fait des interviews sur ces différents podcasts, à chaque fois, j'avais plutôt des athlètes qui avaient pu quand même, tu vois, trouver une petite fenêtre pour faire soit de la préparation physique, soit qui avaient trouvé un cours de tennis même de temps en temps. Et finalement, ouais. C'est assez rare, ouais, d'avoir eu ce discours que je sens assez pesant quand même. Enfin,
t'as pesé. Il a été un peu, ouais. D'accord. Ça a mis du temps à reprendre un peu sa vie. J'ai eu du mal aussi après à reprendre l'entraînement du fait que j'étais vraiment pas en grande forme. Ouais. Donc là, je suis vraiment heureux d'avoir retrouvé les tournois, d'être réaffûté, d'être bien physiquement et je suis content que ce soit derrière.
D'accord. Mais quand tu dis ce qui t'a le plus pesé, en fait, c'était presque de pas savoir quand on allait s'en sortir et de se dire que bon, ça a été très long, enfin dans la durée déjà.
Ouais.
Mais d'accord. Et donc de sentir que physiquement, enfin, tu plongeais et mentalement, donc il y a aussi la dimension mentale, c'est ce que tu dis?
Ouais, un peu. Le fait, le fait d'être en appart aussi, de pas pouvoir sortir. Nous, on a quand même l'habitude d'être souvent dehors, souvent en voyage, tout ça. Ça a pas mal pesé, mais.
Mais c'est là où ça t'a fait prendre, je sais pas, conscience que cette vie, enfin voilà, de joueur de tennis qui voyage, qui bouge beaucoup, pas facile d'être sédentaire. C'est quand même, on est habitué.
Non, c'est sûr qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude d'être au même endroit pendant plus d'un mois. Donc c'est vraiment là, ces dernières semaines où j'ai vraiment retrouvé un peu la vie finalement qu'on aime, d'être dans les avions, d'être dans les hôtels, de voyager et de pouvoir jouer dans plein de pays différents.
D'accord. Donc là, tu as repris ensuite le chemin de l'entraînement dans un premier temps, je suppose. Ouais. Et puis récemment, tu as repris la compétition avec le Challenge Elite FFT.
J'ai repris en fait un match par équipe en Italie avant de commencer les Challenge Elite FFT. Donc un petit match à Rome où je suis d'ailleurs aujourd'hui pour disputer le dernier match par équipe demain, dimanche. Et du coup, voilà, j'ai fait deux Challenge Elite et deux matchs par équipe et mon dernier match par équipe ce week-end. Donc, c'est pour ça, j'ai aussi pu jouer sur dur, sur terre, rejouer un peu à l'étranger, voir aussi comment étaient les conditions à l'étranger. J'ai pris les avions, tout ça. Donc, j'ai retrouvé un peu cette ambiance qui m'avait malgré tout manqué de beaucoup voyager, de changer de pays régulièrement. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, l'ambiance des matchs par équipe aussi, rejouer pour une équipe. J'ai refait aussi des doubles, donc des trucs qui sont vraiment sympas, des trucs que j'aime aussi dans le tennis. Donc non, depuis quelques semaines, c'est vraiment sympa.
Ça va mieux. Donc tu avais besoin vraiment de retrouver la vie du circuit. Et donc là, tu t'es entraîné combien de temps avant de repartir finalement? Tu as eu combien de semaines de préparation?
Je ne les ai même pas comptées, mais il y en a eu beaucoup. Ça a été au début, voilà, je me suis entraîné avec Loïc Courteau et un peu Lucas. Oui, avant qu'il se refasse mal au bras. Et tous les deux, on avait beaucoup de mal à s'entraîner parce que on n'avait pas de date, quoi. Vraiment, nous, on avait besoin d'une échéance, quoi, parce qu'on s'entraînait, mais on savait pas du tout où on allait. Donc, moi, la priorité, c'était bien sûr de me remettre en forme, de reperdre mes kilos en trop. Et après, voilà, on s'est entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien de semaines exactement, je ne saurais pas te dire.
T'as une tendance à prendre du poids, tu dis que tu as perdu du poids. Et pendant ce confinement, t'as pris quelques kilos.
Ouais, je suis quelqu'un qui prend assez rapidement quand je fais plus grand chose. Et là, je vous fais toute la journée et très peu de sport, donc forcément, ça ne pardonne pas. Mais voilà, après tout est rentré dans l'ordre.
Progressivement, tu as repris l'entraînement.
Ouais, après je savais que de toute façon que j'avais du temps, que ça allait revenir avec une meilleure hygiène de vie et forcément en faisant du sport régulièrement, ça allait revenir. Donc voilà. Et après très vite on a eu la carotte du Challenge Elite qui a été vraiment génial et pour nous parce que voilà déjà retrouver cette vie de tennisman quoi, vraiment cette vie de tournoi. En plus pour nous financièrement voilà c'était pas forcément évident parce qu'on a eu un peu les aides de l'État tout ça. Mais l'ATP, ils ont pas forcément trop communiqué. Finalement, ils nous ont aidés aussi.
Ont fait finalement l'ATP carotte. Exactement. Quelle a été leur aide?
Je crois que pour les joueurs de 100 à 200, je sais pas les classements exacts, mais en gros de 100 à 250, ils ont fait deux versements de un peu moins de 4000 euros.
D'accord. Et ils sont allés au-delà de ce classement sur les aides? Tu sais pas.
Je saurais pas te dire le classement. Peut-être un peu plus que 250. Et je sais que l'ITF aussi a aidé. La Fédé aussi a essayé d'aider pas mal de joueurs. Les classements. À participer, à aider un peu les joueurs qui avaient des classements ATP et qui eux n'étaient pas pris en charge par l'ITF. Je saurais pas les classements et les montants par contre.
D'accord. Et là, sur le Challenge Elite, FFT, donc, il y avait aussi du prize money.
Ouais, il y avait du prize money, donc voilà, vraiment un tournoi où la différence qu'il n'y avait pas de points et que c'était des matchs de poule pour commencer. Donc moi, ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai gagné le deuxième tournoi en perdant mon premier match. Mais ce qui peut arriver aussi parfois quand tu passes par les qualifs.
Mais, en étant repêché,
Ouais, en étant lucky loser. On connaissait le format. Mon deuxième match, il fallait absolument que je le gagne en 2-7. Donc quand tu rentres sur le court, tu sais que t'as pas le droit à l'erreur, donc c'est des formats un peu différents. Il y avait le super tie-break tout ça, mais voilà, ça nous remet vraiment dans la compète. Et en plus, voilà, comme dans les tournois, plus tu joues bien, plus il y a d'argent. Et donc voilà, ça valait doublement le coup d'être bien prêt, d'arriver prêt et d'essayer de performer au mieux sur ces tournois.
Donc t'as joué quoi? Deux étapes?
J'ai joué deux étapes et ensuite. Et ensuite, j'ai arrêté ma collaboration avec Olivier Malcor pour débuter avec Nicolas De Wilder.
D'accord.
Et pour débuter sur la saison sur terre battue qui devait reprendre le 17. Donc, me laisser une bonne marge de préparation pour bien débuter. Mais j'avais pas pris en compte que les challengers seraient extrêmement forts et que finalement je rentrerai pas sur les tournois malgré que je sois à 190e. Donc là je suis un peu en stand-by, savoir quand est-ce que je vais pouvoir rentrer un peu sur les challenges.
Parce que là, pour revenir d'abord sur enfin, plus ton état de forme, parce que justement après ce confinement, tu dis que ça a été très dur, tu as dû te remettre un petit peu sur les bons rails et ça t'a pris du temps. Et là, mais finalement, tu as assez bien rejoué assez rapidement. Si tu gagnes
Ouais.
à Cannes, hein, c'est
Non,
ça?
voilà. Non. Non, ça a pris du temps au début, voilà, ça a pris du temps à
Mais ton niveau de jeu est
retrouver.
vite revenu. Physiquement, tu n'as aucun bobo. Finalement, c'est plus
Non, vraiment pas. Je suis arrivé sur le.
l'envie qui a pris le dessus sur le reste.
Voilà, c'était plus le fait. Pour moi, ça a été dur de retrouver la concentration pendant longtemps sur le terrain. Toutes ces choses-là que j'avais un peu perdues parce que malgré tout, on a arrêté pendant longtemps. De retrouver, voilà, tous les jours à l'entraînement, mais j'ai avec l'aide de Loïc Courtois, d'Olivier Malcor, de Paul Quétin aussi qui m'a beaucoup aidé. On a bien bossé. Je savais qu'en arrivant sur le Challenge Elite, j'étais prêt, quoi. Voilà, comme si c'était la vraie reprise du circuit. J'avais cette date dans ma tête et j'étais vraiment prêt. Mon niveau de jeu était vraiment bon dans le sud pour le coup.
Dès le début, le premier set n'a pas été compliqué. Après autant justement d'arrêt, il n'y a pas eu de tension, pas de stress, tu vois, à l'approche du premier match. Ça a été, franchement, tu es
Ben en
rentré
fait,
rapidement dedans.
c'était le tournoi de Nice, c'était un peu. On était entre nous, entre joueurs du CNE, on se connaissait tous, on est tous potes, tous ceux qui jouaient sur le Challenge Elite. J'ai trouvé que l'ambiance, on ne s'était pas tous vraiment mis en mode forcément compète, on ne s'encourageait pas tous trop. Enfin, il
Il y avait
y avait un
juste quoi,
peu cette ambiance.
l'image
Hein.
d'entraînement plus que de
C'est
compétition.
dur à dire l'ambiance. Match d'entraînement plus, enfin, je sais pas comment dire, il y avait quand même des arbitres, tout ça. Mais malgré tout, j'ai trouvé que il y en a beaucoup qui ont eu un peu de mal à rentrer dans ce tournoi. D'autres qui s'y sont mis tout de suite. Mais voilà, dès la deuxième étape, on a senti tout de suite que les joueurs, ils rentraient souvent sur le terrain pour gagner, que voilà, c'était un tournoi et que chacun allait essayer de faire le maximum pour gagner. Et là, il y avait plus de, c'était reparti, quoi. On était reparti en compète normale.
D'accord. Tu disais là donc tu ouvres un nouveau chapitre avec un nouvel entraîneur.
Exactement.
Et donc tu as commencé avec Nicolas De Wilda?
On a
C'est parti?
commencé cette semaine, depuis mardi.
Super. Et donc alors c'est quoi les prochaines échéances? Parce que si j'ai bien compris, c'est difficile de faire le calendrier.
Bah, j'espérais me reprendre sur les Challengers le 17 août.
Ouais.
Malheureusement, je suis pas rentré. Il y avait que deux Challengers en Europe. C'est la semaine aussi également de Cincinnati.
Ce sont les premiers
Donc,
challengers qui
ouais,
reprennent. D'accord.
ce sont les tout premiers pour les hommes. Et je suis pas encore rentré, donc j'espère rentrer la semaine du 24. Mais tout va dépendre un peu des listes. On n'a pas eu confirmation encore que l'US Open était maintenu. On aurait dû l'avoir jeudi ou vendredi, on n'a pas eu d'infos. Donc on est aussi un peu dépendant de ça. Si l'US se joue, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui vont se désinscrire pour y aller. Si l'US se joue pas, je pense qu'ils vont devoir rechanger le calendrier.
Pour ceux qui nous écoutent, c'est les inscriptions. Donc les listes sortent 3 semaines avant hein, dans les challengers. Et ouais, donc là, c'est compliqué là, de travailler sur une programmation. Donc c'est pareil, là, tu te retrouves dans une configuration à pas vraiment avoir des chances. Alors heureusement, tu as peut-être justement cette motivation d'avoir un nouvel entraîneur et d'avoir plein de choses à travailler. Enfin, je pense déjà apprendre à vous connaître un peu plus. Mais ça doit être
Mais
aussi difficile.
la chance qu'on a, c'est qu'en France, on a énormément de tournois français. Du coup, la semaine du 17, je me suis inscrit dans un CNGT. Ça remplacera pas le circuit, mais ça me fera faire des matchs. Ça me mettra vraiment en mode compète. Voilà, je serai prêt dès que je vais rentrer. Je serai prêt tout de suite à aller jouer le challenger pour le gagner.
Est-ce que on peut revenir sur le sujet de l'US Open?
On peut, bien sûr.
Parce que je crois que t'en as un petit peu parlé. Alors je ne sais pas où tu l'as évoqué, peut-être sur les réseaux sociaux. Mais
Possible.
tu as trouvé très injuste le fait qu'il y ait ces qualifs annulés.
Ouais, je trouve que c'est vraiment très très injuste parce que voilà, l'US Open, c'est pas que les 100 meilleurs, il y a aussi les qualifs, il y a aussi les joueurs de double, enfin. C'est tout un ensemble. Malgré tout, quand on est 200e mondial, bah ouais, on dit qu'on joue pour jouer les qualifs de Grand Chelem. Certes, c'est pas le tableau, Mais pour la majorité des joueurs, c'est un budget important. C'est quand même un énorme événement parce qu'on joue pour se qualifier, rentrer dans le tableau et aller après essayer de battre les meilleurs. C'est vraiment pour nous vraiment des tournois très importants qui nous motivent, qui nous...
Est-ce que tu trouves que c'est un manque de considération ?
Un peu. Un peu. Après, je sais que la période est difficile. Je pense que ils ont essayé de faire au mieux. Après, ils ont changé Cincinnati. Donc, je pense qu'ils ont eu plein de problématiques auxquelles je suis pas forcément au courant de tout parce que je suis pas dans les discussions de tout ce qui peut se dire au bureau de l'ATP. Mais je pense que malgré tout, un grand chelem, ça doit se disputer avec les qualifs et parce que quand t'es 220e mondial, tu mérites de faire les qualifs des grands chelems. Tu mérites d'avoir ta chance de pouvoir aller disputer le tableau et de pouvoir faire un beau tournoi. Et donc, certes, ils vont peut-être nous aider un peu financièrement, mais oui, on va être content. Mais nous, on joue pour aller essayer de se qualifier à l'US Open, essayer de faire un qualifié troisième tour, essayer de faire un gros tournoi. On essaye d'aller taper les meilleurs sur les gros cours. C'est pour ça qu'on joue. On joue pas pour gagner les challengers. C'est cool de gagner les challengers, mais on s'arrache toute l'année pour avoir le classement et après essayer d'aller faire des gros matchs sur les gros cours, d'essayer de battre des bons mecs et voilà, de monter au classement, prendre des points. Donc, pour nous, en tout cas, pour ma part, ça m'a fait vraiment mal d'apprendre qu'il n'y avait pas de qualif, quoi.
Ouais, bien sûr, les challengers, c'est ce que tu dis, c'est une étape justement pour aller participer au qualif de Grand Chelem, mais pouvoir se qualifier, sachant qu'ensuite, ça a des...
Ouais, les challengers sont durs. Les challengers sont durs, les challengers sont forts. Donc, c'est pas simple de monter. Il faut bien jouer toute l'année. Donc, quand tu arrives sur un Grand Chelem, tu es content, tu es fier d'être là. Et tu as envie d'aller te qualifier. Comme ce que j'ai fait en début d'année, je me suis qualifié. J'ai joué contre Krajinovic, qui doit être 35e mondial. Ouais, c'est ces matchs-là qui nous font kiffer et qui nous font vibrer, quoi. Donc vraiment déçu de ne pas pouvoir prendre part au tournoi cette année.
Je ne sais pas sur quoi rebondir, sur le match de Krajinovic où tu perds en 5-7, un match de dingue, qui me fait aussi penser à celui de Roland Garros contre, je sais pas comment on le prononce, Tronguelliti ou un truc comme ça. Ouais. Un 5-7 aussi, imperdable celui-ci. À Roland, enfin, je te vois faire la moue, mais ça a été mon sentiment. T'as été 102e au mieux. Mmh. T'es encore jeune, hein, t'as encore que 23 ans. Mais comment tu. Et on sait que t'es quand même très attendu. Tu l'es encore, enfin, tu l'as été, tu l'es encore. Il y a Nadal qui avait déclaré que tu représentais un peu le tennis de demain ou le futur du tennis, je sais plus sous quelle forme il l'avait dit. Est-ce que ça te pèse tout ça aujourd'hui ? Comment tu l'analyses ? De quelle manière tu l'accueilles ? Mais avec sur le moment d'ailleurs, est-ce que tu l'avais accueilli différemment ? Et aujourd'hui, à 23 ans maintenant, c'est peut-être un petit peu différent.
Sur le moment, le match que tu parles contre Tronguelliti, qui a été un peu dur parce que j'étais bien classé à ce moment-là. Voilà, un premier tour de Roland, ça représente beaucoup de points malgré tout. C'est un match qui a été très mal géré de ma part où physiquement j'étais pas encore forcément très prêt. Contrairement à celui que j'ai perdu en début d'année, les deux sont perdus, mais le niveau de jeu est complètement différent. L'intensité physique, elle est multipliée par 10. L'intensité mentale, enfin, on peut pas comparer ces deux défaites. Elles sont incomparables. Mon niveau, il était 3 fois meilleur en début d'année. Ça me montre que j'ai bien progressé. Mais après, oui, c'est dur. J'ai été 102e. J'ai eu une balle de match sur un challenger pour rentrer dans les 100. J'ai perdu ce match contre un mec qui avait, je sais même pas s'il avait un point ATP. Ça a été après plusieurs mois difficiles à accepter cette défaite, à me voir après redescendre un peu au classement. Voilà, mon classement d'aujourd'hui, il me rend pas forcément fier et c'est dur parce que les challengers sont forts et c'est dur de remonter. Et après, c'est un espèce de cercle vicieux où t'arrives pas forcément à remonter, ou c'est difficile, où tu perds des matchs à la con, où tu te fais un peu à psychoter, et tu vois que ton niveau de jeu, il est pas là, tu fais les efforts, tout ça. Ça te coûte, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai, malgré tout, même si mon classement est moins bon, je pense mieux jouer qu'à la période où j'avais mon meilleur classement, je pense être meilleur physiquement. J'ai pas mal de recul maintenant, je sais que ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, faut pas que je sois dans l'attente de monter au classement tout de suite. Si ça arrive, ce sera génial, mais Mais avec un peu de recul, voilà, quand j'étais 102e, 110e, que j'étais aux portes, j'attendais énormément de moi et j'étais très déçu dès que je perdais un match. Et je me dis, putain, cette semaine, tu as raté l'occasion de te rapprocher encore. Avec du recul, voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà, cette défaite en particulier au tournoi de Budapest où j'étais 102e, il fallait juste que j'aille mon premier tour pour rentrer dans les 100. C'est un match, voilà, que j'ai perdu, mais le niveau de jeu, il était atroce et je me suis mis dans le gouffre un peu.
C'est quoi? C'est vraiment la pression? C'est la pression que tu t'es mise à ce moment-là? C'est cette barrière? Alors, je sais pas si on peut parler de barrière du top 100 parce que c'est qu'une étape.
Non, ouais. Non, c'est sûr. Sur le coup, voilà, j'avais 21 ans. Ça représentait beaucoup de choses pour moi et aujourd'hui, ça en représente moins parce que voilà, que je sois 102e ou 99e, ça change rien dans ma vie. Enfin, je serais pas plus heureux, moins heureux. Je serais pas plus riche, moins riche. Donc voilà, mais justement, ça a mis du temps à se digérer. J'ai pris du temps aussi à réaliser que ce match m'avait fait du mal. J'ai pris du temps à comprendre tout ça et je pense que voilà, maintenant, c'est derrière. Un nouveau tournant. Voilà, la Fédé qui m'a remercié. Donc, je pars pour la première fois dans le privé. Donc, ça va être une nouvelle expérience. Je sais que mon niveau de jeu est bon. Je sais que mon niveau physique a bien progressé, que je suis capable maintenant de tenir des longs matchs. Je me suis prouvé encore en début d'année. Sur certains matchs, j'ai le niveau pour jouer contre des bons joueurs et les battre. Maintenant, voilà, va falloir appliquer ça le plus souvent possible et pas trop se mettre de pression, d'attente de résultats assez imminents, quoi. Prendre son temps, essayer de faire les choses au quotidien bien. Et s'il y a des défaites qui font mal, bah voilà, les accepter et essayer d'avoir le moins de regrets possible.
Là, on parle de la pression du classement. En lien, il y a évidemment la pression financière aujourd'hui. Tu dis que tu ne seras plus à la Fédé, donc ça veut dire que tu vas prendre un entraîneur, que tu vas voyager avec régulièrement.
Très régulièrement,
oui. Ouais, donc tout ça est très coûteux. Quand tu es à ton classement, c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'on parlait aussi, d'ailleurs, précédemment des qualifs de Grand Chelem, où il y a quand même de plus en plus d'argent. Enfin, on n'a pas parlé beaucoup d'argent, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet. Enfin, à un moment, au-delà aujourd'hui de la 100e place mondiale, où tu n'es pas justement dans les tableaux justement de Grand Chelem directement, c'est pas facile. Si tu passes par les challengers, enfin, il y a de plus en plus d'argent aussi dans les challengers, mais
ouais. Pas mais ça reste voilà. On a vu les chiffres, les challengers représentent à peine 2% du. Ouais. Du prize money total. Donc,
est-ce que c'est des toi, réseaux. aujourd'hui, tu arrives à en vivre, encore une fois, ces questions pour que les gens, enfin, tu vois, arrivent à mesurer la difficulté.
Aujourd'hui, oui, parce que voilà, quand tu fais deux grands chelems dans la même année, il y a beaucoup d'argent. Je suis très investi dans le double. L'année dernière, on a fait un troisième tour aussi à Roland avec mon pote Craig Barrère. C'est des tournois où ça chiffre vite en termes d'argent. Et c'est aussi pour ça que nous, on s'accroche comme des malades pour aller jouer les grands chelems, parce que c'est là où ça chiffre vite en termes de prize money. Quoi. Donc,
en gros, c'est grâce à ça que tu as bouclé ton année. C'est ce qui te permet clairement de te dire, j'ai quelques mois de répit.
En gros, oui. Et tu sais déjà qu'avec mon classement, bah, je rentrerai au minimum dans les 4 tournois du grand chelem. Donc déjà, tu sais que t'as un petit matelas. Ensuite, en France, on est quand même pas mal aidé par les matchs par équipe, tout ça. Mais c'est sûr que voilà, les grands chelems, et dès que tu gagnes un match, le prize money, il double tout de suite. Voilà, tu te qualifies en Australie, c'est quand même beaucoup d'argent tout de suite. Et voilà, un troisième tour à Roland en double aussi, ça chiffre vite. Donc, c'est pour ça que les tournois du Grand Chelem, quand on a une wildcard à Roland en double, bah, on est comme des fous. On s'entraîne, on se prépare les semaines d'avant, on a envie de bien jouer. C'est sûr que c'est pour nous, ils sont très importants, ces tournois-là, pour aussi financer notre année.
Ouais, quand tu parles du double, tu le fais pas à but lucratif, tu le fais plutôt.
Non, non, non.
Parce
non.
que t'aimes ça. Enfin, parce que t'es. Ouais, ça carrément. Te permet aussi de développer certaines qualités pour le
simple. Carrément, j'adore jouer en équipe, j'adore. Ouais, avec. Je c'est joue pas beaucoup avec.
Dans le but de.
Non, 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 non.
D'aller gagner de l'argent.
Non, 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 non. Non, mais tu peux pas. Voilà, quand tu vois le. C'est toujours cette question de savoir est-ce que tu t'inscris dans un tournoi de double pour entrer à MMA, ne faire que du double, ou tu repars la semaine d'après sur un challenger. Bah, moi, je privilégie souvent de rester pour le double, pour même en challenger, essayer d'aller au bout des tournois, gagner des tournois, même si c'est qu'en double. Voilà, ça m'apporte beaucoup de confiance. Je sais que quand j'ai les semaines où j'ai pas forcément bien joué en simple, rester, même faire une demi ou une finale ensemble, c'est tout con, mais en double, pardon, c'est tout con, mais ça apporte de la confiance, c'est des matchs gagnés, c'est voilà, c'est cool de ressortir en vainqueur du terrain, même si c'est qu'un double. Et moi, ça m'a souvent aidé à rebondir et vraiment, à l'heure actuelle, mon classement de double est meilleur que celui du simple. Donc pour moi, c'est vraiment important aussi.
Ouais, et puis c'est rester aussi dans la compétition, je trouve. Tu sais, quand tu as perdu en simple,
ouais,
c'est rester dans la compétition, c'est rester sérieux, c'est rester concerné. Enfin, après, j'ai pas trop joué le double, mais je parle comme si, tu vois.
Non, mais voilà, mais ça te maintient dans. C'est important. Ça te maintient dans un bon état d'esprit. Et voilà, malgré tout, une victoire, ça reste une victoire. Et quand en simple, il n'y en a pas beaucoup, ça fait toujours du bien. Et voilà, tu fais un bon double, tu fais une bonne semaine de double. La semaine d'après, bon, moi, ça m'aide en tout cas à me sentir un peu plus confiant la semaine d'après.
Aujourd'hui, donc nouvelle étape, on en parlait. Donc Nicolas De Wilder, tu vas repartir sur le circuit très vite, très prochainement, hyper motivé parce que tu as très envie de reprendre cette vie de globetrotter. Et moi qui connais aussi assez bien ton jeu, je vais quand même te laisser répondre avant. C'est quoi tes axes de progrès ? Qu'est-ce qui te paraît le plus important à développer aujourd'hui pour franchir des caps ?
Aujourd'hui, ce que pour moi me semble le plus important, et c'est ce que j'ai plutôt bien fait, voire très bien fait en début d'année, et ce que j'ai très bien fait aussi au Challenge Elite, c'est vraiment arriver à trouver de la constance dans ce que je fais. Je fais trop le yo-yo, où il y a des matchs où je fais beaucoup trop de fautes, où il y a des matchs où mon identité de jeu n'est pas assez claire. Où, voilà,
c'est dû à quoi ?
Je le dis quand je perds.
Tu as réussi à l'analyser ?
À la mauvaise gestion de mes émotions, les émotions qui prennent trop le dessus. Et du coup, quand je me mets à être trop tendu en match, je perds un peu le fil. Et c'est vraiment ça, arriver tout au long de l'année, avoir le même style de jeu, bien sûr, qui sera adaptable en fonction des adversaires et des surfaces, mais avoir une identité de jeu vraiment encore plus forte et que mes adversaires ils s'attendent à ce que je leur fasse des aces, à ce que je frappe fort en coup droit, et pas que quand tout d'un coup ça va pas, que je me recule de 2 mètres et que je fasse plus un coup droit gagnant, donc c'est vraiment ça que pour l'instant j'ai du mal. Quand mes émotions prennent le dessus, mon identité de jeu se retrouve moins. Et du coup, moi, je me perds dans mon tennis, tout ça, et je suis plus performant. Et c'est pour ça que ça m'a coûté des matchs, et des matchs importants, parce qu'il y avait de l'enjeu et que j'ai pas su gérer ça.
Et donc là, c'est vraiment une prise de conscience de ta part. Après, de manière effective, comment ça se travaille ?
Ça se travaille au quotidien, le reproduire le plus possible à l'entraînement, être le plus rigoureux possible. Et après, faut l'appliquer en match, faut s'y tenir le plus possible. Perdre des matchs, mais entre guillemets, perdre de la bonne façon plutôt que d'en gagner de mauvaise façon, même s'il n'y a jamais de mauvais matchs gagnés. Mais voilà, se tenir le maximum et arriver à.
Ça passe aussi par la préparation mentale ou en dehors du cours, ou toi, c'est pas ton truc?
Ça passe, je bosse actuellement avec une préparatrice mentale, mais pas quelqu'un qui s'ouvre facilement. Moi, je m'ouvre plutôt avec mon coach, donc c'est pas mal de discussions avec. Ça a été beaucoup de discussions avec Olivier Malcor, pas toujours agréable, mais voilà, passer quelques minutes avant le match, avec le coach, à bien discuter de la tactique, à bien savoir, à être bien clair à chaque fois que tu rentres sur le court, savoir ce qu'il faut faire. Donc moi, je suis plus essayer de parler avec mon coach qui sera au quotidien avec moi, qui verra 95% des matchs, la personne qui finalement va voyager tout le temps avec moi. Donc moi, je suis un peu plus dans le relationnel avec mon coach.
D'accord. Donc là, on est vraiment, donc tu disais, sur la gestion des émotions, pour t'aider à être plus constant. Et parce qu'en fait, je sais que peut-être que le fait d'en parler de cette manière, je veux surtout pas t'enfoncer. Au contraire, il faut le prendre de manière très encourageante. Mais c'est vrai que tu as tellement d'armes, en fait. Et quand tu parles de ton service, de ton coup droit, mais ton revers est bon. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ta qualité d'œil, moi, je trouve ce qui m'avait aussi assez bluffé. Et je me souviens, un match contre Djokovic à l'Open d'Australie, si je ne dis pas de bêtises, tu l'as joué, on est d'accord ?
Ouais, d'accord.
Et sur le central, ouais, même, je crois. Ouais, et je me rappelle, en fait, ce qui m'avait bluffé, c'était... t'étais à l'heure quoi, sur la balle. Après, peu importe le score, c'est Djoko. Mais il y a plein de choses qu'on pouvait voir. Et aujourd'hui, je me dis, quand je vois ton classement, ah, c'est pas ta valeur. Et c'est pas grave, il faut prendre le temps. Et c'est ce que tu dis, il faut pas se presser, se mettre de pression en tout cas. Il faut avancer, faire les choses dans l'ordre, chacun sa trajectoire.
Et ce que tu dis, je l'ai vécu et je l'ai un peu moins en moi aujourd'hui, mais ce regret de me dire « putain, t'es en train de passer à côté, t'es en train de faire de la merde ». Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut que je m'enlève de la tête. J'ai fait des erreurs, je les assume, j'avance et il ne faudra pas les reproduire. Maintenant, je sais où je vais.
À un moment, ça t'a pesé ? À un moment, ça t'a vraiment pesé ?
Ouais, à un moment, j'étais ultra négatif, je pensais qu'à ça et je m'en voulais à chaque fois que je perdais des matchs. C'était
tu t'en voulais simple, mais... pour toi ou par rapport au regard des autres aussi, en gros ? Est-ce que c'est, tu sais...
À un moment, le regard des autres a pesé.
L'entourage.
Pas forcément les médias, ça m'a jamais trop affecté. Depuis jeune, tout le monde parle un peu de moi. Donc,
autour de toi, alors ?
Ouais, l'attente, le fait de décevoir un peu les gens qui sont là depuis le début, les gens voilà, comme toi qui croient en moi, qui sont toujours derrière nous, même si ça n'a pas forcément de valeur, mais voilà, tu as envie de faire plaisir, tu as envie. Moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est que ce que tu dis, je le transforme sur le terrain et te dire merci pour tes mots et que ce que tu dises, voilà, ça se transmette sur le terrain.
Enfin, moi, sache qu'en tout cas, j'y crois encore à fond. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu n'es que 23 ans et que chacun a sa route, chacun a son chemin. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est singulier. Donc, et le but, c'est voilà, c'est ce que tu dis, je pense, c'est de régler tout ça et de pas se mettre cette pression qui finalement vient créer des interférences, si tu veux, sur ton parcours. Je vais arrêter sur tout ça, mais voilà. Il faudra retenir ça. Moi, je crois à fond en toi et toujours. La suite, c'est sur la modernisation du jeu. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu crois que le tennis doit évoluer ? Ou tu as une vision assez conservatrice aussi de notre sport ou progressiste avec quelques éléments peut-être à intégrer ? Tu en penses quoi, finalement ?
Plutôt conservateur.
Ouais.
Quand je vois l'exhibition que Patrick Mouratoglou est en train de faire, je trouve ça sympa, mais je ne verrai pas de tournoi se dérouler de cette façon. Je pense qu'en ce moment, voilà, c'est hyper sympa, c'est très divertissant, on aime bien regarder, mais ça ne remplacera pas pour moi un tournoi normal. J'ai été déçu déjà qu'ils arrêtent, qu'ils mettent les tie-breaks au 5e set sur deux grands chelems en plus. Je trouve que c'est sympa quand on voit des matchs qui peuvent durer des heures et que ça ne finisse pas. Donc, plutôt conservateur des règles. Le seul truc que je trouve vraiment sympa, ce serait le coaching en court parce que tout le monde le fait déjà plus ou moins. Tout le monde parle au bord du terrain, mais voilà, que on puisse mettre, je sais pas, que tout le monde puisse entendre. Il y a, pour moi, le coaching dans énormément de sports, il se fait. On est l'un des seuls sports où ça n'existe pas, même si ça se fait quand même énormément. Donc,
tu veux dire que c'est assez hypocrite de dire qu'il n'y a pas de coaching.
Ouais, quand on prend un avertissement pour coaching, c'est toujours très hypocrite. Parce que...
Après, tu ne crois pas qu'il y a une différence entre le coaching on court, donc avoir son entraîneur qui vient et qui distille ses conseils, qui te rebooste pendant 1 minute 30, et le coaching volant, et donc où à la limite, tu vois, à chaque fois que tu tournes et que tu es du côté de ton entraîneur, qu'il puisse t'envoyer quelques mots de soutien.
Non, moi c'est plus voilà le coaching volant qu'on a eu en début d'année au qualif de l'Open d'Australie qui a été mis en place, où voilà l'entraîneur il doit être sur une zone bien précise du court et quand tu tournes il a le droit de te parler. Bien sûr, l'échange il dure entre 30 secondes et 1 minute. Ça, c'est pas enfin, il va pas changer le cours du match fondamentalement, mais il peut faire passer des petits messages et je trouve que plutôt que de le faire de façon cachée, au moins là, on sait vraiment que voilà, il y a pas d'hypocrisie, il coach. Je pense pas que ça puisse faire tourner des milliards de matchs, mais je trouve que ça rajoute un petit truc sympa au.
Pour toi, ça enlève pas la dimension mentale? Sachant que, encore
non, parce
fois,
que
quand tu vois, on pourrait très bien dire que chacun a des forces, enfin, des qualités différentes, et que pour celui qui, justement, joue sur cette qualité principalement, il ne serait pas un petit peu lésé.
Si, je vois ce que tu veux dire.
C'est léger, hein, dans... c'est léger, mais encore une
non,
fois.
Non, c'est... Dans la mesure où à 90% des matchs, ça se fait déjà, je vois pas l'intérêt de le cacher. Et justement, s'il y avait un petit micro de t'entends que les gens à la télé ils entendaient, je trouve que ça rendrait même un petit côté sympa d'entendre les conseils du coach ou ce qu'il peut se dire. C'est que mon opinion. Après, c'est pas quelque chose qui va fondamentalement révolutionner le tennis, quoi.
Ouais, tout ce qui est, je sais pas, Nolet, par exemple, Noad. En simple.
Noad, pas forcément, parce que ça crée des breaks un peu sur des coups de chance, quoi. Le Nolet, pour moi, il faudrait vraiment que tous les filets soient tendus de la même façon, parce que quand tu joues à l'US, tu prends la lettre, elle sort du court et elle fait 20 mètres. Ah oui, mais elle tombe juste derrière le filet, c'est ace à chaque fois, donc pas fan de ces règles.
D'accord. Et sur les short sets, moyen.
Pareil, après.
T'es bien sur la durée des matchs, c'est ce que tu disais au début un petit peu.
Je trouve que les matchs, c'est sympa. Déjà qu'en indoor, parfois, les matchs, ils peuvent aller très vite. Là, si on rajoute des short sets, ça peut devenir des matchs d'une demi-heure. Et
ouais.
Après,
c'est clair. Là, la dimension physique.
La dimension physique.
Elle est vraiment touchée.
Même malgré tout, la dimension mentale sera différente, quoi. Il n'y aura plus besoin d'être concentré très longtemps, il y aura besoin d'être fort sur les moments clés tout de suite. Mais moi, je suis vraiment pas pour.
Code de conduite, sur l'assouplissement du code de conduite. Tu sais, enfin pareil, parce que tu parlais de l'UTS de Patrick Mouratoglou, sur lequel le message c'était de dire qu'il fallait laisser les joueurs s'exprimer.
Non, je pense après.
Est-ce que tu trouves en gros après, je pense que c'est trop lisse? Est-ce que c'est trop aseptisé? Est-ce que tu as le sentiment que on empêche les joueuses et les joueurs de s'exprimer?
Je pense pas, mais je pense que ça fera pas de bonne pub au tennis si on voit que des joueurs casser des raquettes. Je pense que malgré tout, voilà, voir les joueurs insulter sur le terrain, ça fera pas de la bonne pub non plus. Je pense que les règles actuelles sont plutôt bonnes. Je pense qu'il faut quand même qu'on garde malgré tout une bonne image des joueurs sur le court. Malgré tout, on crache un peu sur les footeux parce que ils insultent l'arbitre, parce que dès qu'ils se font toucher, ils sont au sol. Malgré tout, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore au tennis et je pense pas qu'il faut qu'on devienne comme le foot. Je pense que le respect, la bonne conduite, ça doit quand même rester assez, assez présent dans le tennis. C'est sûr que ça enlève un peu de fun, mais il y aura toujours des joueurs comme Benoît Paire, comme Fognini, qui sortiront un peu du lot et qui, eux accepteront de prendre des warnings, accepteront de prendre des amendes. Mais je pense que ça doit quand même rester des cas assez, assez isolés.
Donc il faut qu'il y en ait 3-4 qui fassent le taf pour tout le reste.
Non, mais voilà, c'est
façon de parler.
Ça reste malgré tout un faible pourcentage de joueurs qui s'expriment énormément sur le court demain. Si on dit aux meilleurs mondiaux, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, ils ne casseront pas plus de raquettes et ils ne créeront pas plus. Non, je ne pense pas.
D'accord. Et ceux que tu as nommés n'en feront pas plus non plus. Ils en font suffisamment.
Ah, je ne pense pas qu'ils vont casser sa raquette par mal. Donc,
ça, c'est ça, oui. Ça devrait suffire.
Je ne pense pas que ça changera énormément de choses.
D'accord. Bon, écoute, super. Écoute, Quentin, je crois qu'on a fait le tour. Je vais te remercier pour ta sincérité, pour cet échange.
Merci à toi.
Discussion très transparente de ta part. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. Et surtout, n'hésitez pas, si vous aimez, likez, abonnez-vous et commentez sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine. Salut.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds.
Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.